mandat de refaire les parlementaires. Je serai candidat. Votez pour moi.
Autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus, tout à fait incongrus. Mais en me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché je me montre au doigt et me crie va te faire homme incorrect, voire parler grec. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sur le 89.4 FM et www.radio-libertaire.org. Dans quelques instants, le Ferry Club.
Je crois que quand on aimerait un beau, on ne l'aime pas comme on aime un autre écrivain ou un autre poète. C'est tout à fait différent. Je crois que quand on aime Rimbaud, on ne l'aime pas comme on aime un autre écrivain ou un autre poète. C'est tout à fait différent. Je crois que les gens qui aiment Rimbaud ne peuvent que l'aimer, mais passionnément.
Sur Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Avec la bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fête le 170e anniversaire d'un certain Arthur R.
La Radio Libertaire, 89.5.
Oui.
Jeunesse a tout asservi par délicatesse. J'ai perdu ma vie. Ah, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Je me suis dit laisse et qu'on ne te voie et sans la promesse de plus haute joie. Que rien ne t'arrête, auguste retraite. J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie craintes et souffrances. Aux cieux sont partis et la soif malsaine obscurcit mes veines. Ainsi la patrie à l'oubli livrée grandit et fleurit, dansant et d'ivraie, au bourdon farouche de cent sales mouches, à mille veuvages de la si pauvre âme qui n'a que l'image de la Notre-Dame et ce que l'on prie, la Vierge Marie, oisive jeunesse, a tout asservi par délicatesse. J'ai perdu ma vie.
Et cette image-là, c'est Delahaye qui l'a faite ?
C'est le dessin de Delahaye, auquel justement Rimbaud rendait visite dans un petit village à côté. Et Rimbaud ne pouvait pas rentrer par la rue principale du village parce que les enfants, à cause de sa longue chevelure, lui jetaient des cailloux.
L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles. L'infini roulé blanc de ta nuque à tes reins. La mer a perlé rousse à tes mâmes vermeilles. Et l'homme saigné noir à ton flanc souverain.
Réclame votre tranche hebdomadaire de Léo entre 16h et 17h sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, que vous pouvez soutenir hein, en vous procurant une carte d'auditeur, carte d'auditrice. Elles sont disponibles à la librairie du Monde Libertaire au 145 de la rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Vous pouvez également participer à la souscription des amis avec un E et 100 de Radio Libertaire. Ça se passe sur radio-libertaire.org. Vous pouvez soutenir également Radio Libertaire en vous procurant les petits autocollants et en les collant. Hein, parce que, évidemment, vous ferez un petit effort de soutien financier en nous achetant quelques autocollants. Mais le but, c'est un petit peu aussi de faire connaître la radio en collant ces autocollants. Donc, ils sont très beaux, hein, sauf ceux qui sont moins beaux. Et enfin, vous avez le bouche à oreille. Ça, c'est un moyen de faire connaître Radio Libertaire, de soutenir Radio Libertaire, qui coûte pas un rond, et c'est pas mal non plus. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 octobre, et dimanche, Arthur Rimbaud va fêter ses 170 ans. Et nous allons aujourd'hui célébrer ce 170e anniversaire d'Arthur Rimbaud en écoutant quelques-uns de ses poèmes mis en musique par Léo Ferré. Léo rencontre, de manière artistique, Arthur Rimbaud. En 1964, ils vont se retrouver à plusieurs reprises tout au long de la carrière de Léo, jusqu'à son dernier disque qui sera publié de son vivant, la mise en musique du poème d'Arthur Rimbaud, Une saison en enfer. Première rencontre, je vous disais, 1964, pour le premier double album de l'histoire de la pop musique, dont sont issues les deux premières chansons que nous avons écoutées durant cette émission, à savoir Chanson de la plus haute tour et L'étoile a pleuré rose, une chanson qu'apprécie tout particulièrement Sylvie, à qui je passe une bise bien amicale cet instant. Un peu plus tard dans l'émission, nous allons entendre d'autres poèmes d'Arthur Rimbaud mis en musique par Léo sur d'autres albums, d'autres disques. Mais en marge de ces publications discographiques, Léo va beaucoup travailler sur l'œuvre d'Arthur Rimbaud, comme en témoignent les versions de travail de nombreux poèmes d'Arthur Rimbaud sur lesquels il travaillait, et versions de travail qui ont été publiées en 2004 aux éditions, bien sûr, La Mémoire et la Mer. Et nous allons écouter tout de suite une de ces versions de travail, le poème L'Éternité, mis en musique par Léo. Dans le Ferry Club 89.4 FM, c'est Radio Libertaire, c'est la voix de la FA qui n'a pas de Dieu. Pas de Dieu et pas de Dieu.
Elle est retrouvée, quoi, l'éternité, c'est la mer mêlée au soleil.
Mon âme éternelle observe ton vœu, malgré la nuit seule et le jour en feu. Donc tu te dégages des humains suffrages, des communs élans, tu voles selon. Jamais l'espérance, pas de rieture, science, patience, le supplice est sûr. Plus de l'eau de mer, braise de satin, votre ardeur et le devoir. Elle est retrouvée, quoi, l'éternité, c'est la mer bénie.
Je m'en allais les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel muse et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou, petit poussé rêveur. J'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre, je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Où rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés un pied près de mon cœur. Large buffet sculpté, le chêne sombre très vieux a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre comme un flot de vin vieux des parfums engageants. Tout plein c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes, de chiffons, de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère où sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Au buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires. Et tu voudrais compter tes comptes et du bruit quand s'ouvrent lentement tes grandes portes encore.
allée. Loup était morte, les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché réveillant les haleines vives et tièdes, et les prés-pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut dans le sac entier des gens emplis de frais et blêmes. Éclat une fleur qui me dit son nom. Je ris au Wasserfall blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse.
Deux extraits de ce double album, Verlaine et Rimbaud, chantés par Léo Ferré, paru en 1964 chez Barclay. Pour une fois, je vais dire bien son nom, parce que parfois, je m'amuse d'une certaine manière, de petite façon. Je dis Clébard, parce que Barclay, quand on parle en verlan, ça donne Clébard. Et bon, il y a un petit jeu de mots, hein, que vous aurez éventuellement compris, je pense. Et là, je dis Barclay, parce que quand même, il fallait avoir l'audace, en 1964, de dire à Léo Ferré, bah d'accord, banco, Léo, on va faire un double album avec des poèmes de Rimbaud et de Verlaine mis en musique, et on va le vendre. Une autre époque, hein, probablement. Donc, deux extraits, Ma Bohème, suivi du Buffet, le Buffet, deux poèmes d'Arthur Rimbaud, bien évidemment, suivi d'un troisième que nous venons d'entendre. Ce sont les fragments du poème Aube, sur lequel Léo travaillait, et donc publié sur cet album, Maudit soit-il. C'était un double album, hein, également paru en 2004 chez La Mémoire et la Mer. En 1999, Philippe Soler se fait paraître aux éditions Gallimard dans la collection À voix haute, ce livre qui s'intitule La parole d'Arthur Rimbaud. On va en écouter un long extrait dans quelques instants, notamment un extrait au cours duquel Philippe Solers parle de la mère d'Arthur Rimbaud et la décrit comme on peut décrire cette femme. Alors vous remarquerez que j'ai agrémenté ce petit extrait avec une version instrumentale d'une grande mise en musique faite par Léo autour de l'œuvre d'Arthur Rimbaud que nous écouterons dans une version, cette fois non instrumentale, en fin d'émission. Mais juste avant cet extrait de La parole de Rimbaud par Philippe Solers, eh bien, nous allons écouter un extrait de la mise en musique du poème Une saison en enfer, la dernière parution discographique de Léo de son vivant, et tout particulièrement l'extrait Nuit de l'enfer. Radio Libertaire, le Ferré Club, en direct, bien évidemment. Voilà.
Nuit de l'enfer. J'ai avalé une fameuse gorgée de poison. Trois fois béni soit le conseil qui m'est arrivé, mes entrailles me brûlent. La violence du venin tord mes membres, me rend difforme, me terrasse. Je meurs de soif, j'étouffe et ne puis crier. C'est l'enfer, l'éternelle peine. Voyez comme le feu se relève, je brûle comme il faut. Va, démon. J'avais entrevu la conversion au bien et au bonheur, le salut. Puis-je décrire la vision, l'air de l'enfer? Ne souffre pas les immondes. C'était des millions de créatures charmantes. Un suave concert spirituel. La force et la paix, les nobles ambitions, que sais-je? Les nobles ambitions. Et c'est encore la vie. Si la damnation est éternelle, un homme qui veut se mutiler est bien damné, n'est-ce pas? Je me crois en enfer, donc j'y suis. C'est l'exécution du catéchisme. Je suis esclave de mon baptême. Parents, vous avez fait mon malheur et vous avez fait le vôtre. Pauvre innocent, l'enfer ne peut attaquer les païens. C'est la vie encore. Plus tard, les délices de la damnation seront plus profondes. Un crime, vite, que je tombe au néant de par la loi humaine. Reproche ici. Satan qui dit que le feu est ignoble, que ma colère est affreusement sotte. Assez des erreurs qu'on me souffle, magie, parfum faux, musique puérile, et dire que je tiens la vérité. que je vois la justice. J'ai un jugement saint et arrêté. Je suis prêt pour la perfection. Orgueil. La peau de ma tête se dessèche. Pitié, Seigneur, j'ai peur. J'ai soif, si soif. Ah, l'enfance, l'herbe, la pluie, le lac sur les pierres, le clair de lune quand le clocher sonnait. Le diable est au clocher, cette Marie Sainte Vierge. Horreur de ma bêtise. Là-bas, ne sont-ce pas des âmes honnêtes qui me veulent du bien? Venez, j'ai une oreille sur la bouche. Elles ne m'entendent pas, ce sont des fantômes. Puis jamais personne ne pense à autrui. Qu'on n'approche pas, je sens le roussi, c'est certain. Les hallucinations sont innombrables. C'est bien ce que j'ai toujours eu, plus de foi en l'histoire. L'oubli des principes, je m'enterrai. Les poètes et visionnaires seraient jaloux. Je suis mille fois le plus riche. Soyons avares.
Comme la mer.
Ah ça, l'horloge de la vie s'est arrêtée tout à l'heure. Je ne suis plus au monde. La théologie est sérieuse, l'enfer est certainement en bas, et le ciel en haut, extase, cauchemar, sommeil dans un nid de flammes. Que de malice dans la tension, dans la campagne. Satan, Ferdinand, court avec les graines sauvages. Jésus marche sur les ronces purpurines, sans les courber. Jésus marchait sur les eaux irritées. La lanterne nous le montra debout, blanc et détresse brune, au flanc d'une vague d'émeraude.
D'une vague d'émeraude.
Je vais dévoiler tous les mystères, mystères religieux ou naturels, mort, naissance, avenir, passé, cosmogonie, néant. Je suis maître en fantasmagorie. Écoutez, j'ai tous les talents. Il n'y a personne ici, il y a quelqu'un. Je ne voudrais pas répandre mon trésor. Veut-on des chants maigres, des danses de houri? Veut-on que je disparaisse, que je plonge à la recherche de l'anneau? Veut-on, je ferai de l'or, des remèdes. Fiez-vous donc à moi, la foi soulage, guide, guérit. Tous, venez. Même les petits-enfants, que je vous console, qu'on répande pour vous son cœur, le cœur merveilleux, pauvres hommes, travailleurs. Je ne demande pas de prière, avec votre confiance seulement, je serai heureux. Et pensons à moi. Ceci me fait peu regretter le monde, j'ai de la chance de ne pas souffrir plus. Ma vie ne fut que folie douce, c'est regrettable. Bah. Faisons toutes les grimaces imaginables. Décidément, nous sommes hors du monde. Plus aucun son. Mon tact a disparu. Ah, mon château, ma Saxe, mon bois de saule. Les soirs, les matins, les nuits, les jours, suis-je là? Je devrais avoir mon enfer pour la colère, mon enfer pour l'orgueil et l'enfer de la caresse. Un concert d'enfer, je meurs de lassitude, c'est le tombeau, je m'en vais au vert. Horreur de l'horreur, Satan, farceur, tu veux me dissoudre avec tes charmes? Je réclame un coup de fourche, une goutte de feu. Ah, remonter à la vie, jeter les yeux sur nos difformités et ce poison, ce baiser mille fois maudit. Ma faiblesse, la cruauté du monde, mon Dieu, pitié, cachez-moi, je me tiens trop mal, je suis caché, mais je ne le suis pas, c'est le feu qui se relève avec son damné.
J'essaie donc de dire que Rimbaud n'est pas derrière nous, mais très en avance sur nous. Par exemple, la radio diffuse de vieux trucs pompeux d'un ancien directeur de la culture. J'entends. Gérard, je vous parle au nom de ceux qui sont exactement en face de vous, les spectateurs. Tiens, le spectacle a commencé. J'entends ensuite. Les plus vieilles puissances démoniaques du monde, le sang, la sexualité et la nuit. Mais que m'importe à moi si j'ai brassé mon sang, si la sexualité est une amie, si je suis réellement d'outre-tombe, si j'aime la nuit. J'entends le mot « immortalité », les noms de Ramsès, de Sumer, de Napoléon. J'entends le mot révolution. Tout se confond, tout se brouille. J'entends aboyer. Ce qu'on appelle culture, c'est l'ensemble des réponses mystérieuses que peut se faire un homme lorsqu'il regarde dans une glace ce qui sera son visage de mort. Ça y est, ils ont recommencé leur service religieux, leur trafic drapé de cercueils. C'est une manie convulsive et somnambulique chez eux. Une messe grise et funèbre, une lamentation terrorisée, une emphase de mélopée lunaire. Allez-y voir vous-même. Si vous ne voulez pas me croire, à deux pas d'ici, au Panthéon. Hölderlin, dans une phrase bleue pour toujours, appelle les dieux grecs les vivants, les bienheureux taciturnes. On plaindra donc les morts vivants d'ici-bas, les malheureux bavards. Cette passion des débris humains et des caveaux, surtout, est étrange. Voyez Madame Rimbaud, mère, en mai 1900. Hier samedi, on a fait l'exhumation de ma pauvre Vitalie. Quand je suis arrivé, le cercueil était ouvert. J'en ai retiré tous les os et toutes les chairs pourries, ce qu'on nomme cendres, aucun os n'était cassé, mais ils étaient tous détachés les uns des autres, la chair étant pourrie. Cependant, il y avait encore des côtes qui tenaient ensemble par deux étroits et avaient tout à fait conservé la forme de la poitrine. Le crâne était tout à fait intact, encore recouvert de la peau gâtée, et beaucoup de tout petits cheveux très fins, si fins, on les voyait à peine. Voilà donc une mère en train de tripoter le cadavre avancé de sa fille, et elles s'appellent toutes les deux, ne l'oublions pas, Vitalie. Madame Rimbaud, mère, en réalité, souffre surtout de s'appeler Rimbaud. Depuis le départ de son mari, le capitaine Rimbaud, et les aventures de son fils Arthur, elle se sent de plus en plus proche de son père, Così fan tutte, le bon vieux Cuif. Oui, elle préfère se penser comme Vitalie Cuif. Voici ce qu'elle écrit. On a fait l'exhumation des restes de mon bon père. Rien de démoli au cercueil. Il a fallu l'ouvrir. Tous les os très bien conservés, tête complète. Les oreilles, le nez, les yeux, rien de cassé. On a remis le tout dans le même cercueil que ma pauvre Vitalie, car ses restes, à elle, ont tenu au moins trois quarts moins de place que ceux de papa. C'est tout naturel, elle n'avait que 17 ans et papa en avait 58. Et il était très grand et très fort. Madame Rabaud écrit toutes ces joyeuses descriptions à sa fille, Isabelle, laquelle se passionne trop à son goût pour les écrits de son frère Arthur, dont on commence à parler. C'est Dieu cuif contre Rimbaud, squelette contre squelette. Le caveau est fait, et bien fait. Mais cependant, pas encore tout à fait à mon idée. Ma place est prête au milieu de mes chers disparus. Mon cercueil sera déposé entre mon bon père et ma chère Vitalie à ma droite et mon pauvre Arthur à ma gauche. J'ai fait faire deux petits murs en briques sur lesquels sera posé mon cercueil et j'ai fait attacher au mur une croix et une branche de buis béni. J'ai fait venir le fossoyeur et je lui ai bien fait voir où je veux être. Il m'a très bien comprise. Tout est en ordre. La courageuse Madame Rimbaud s'installe en majesté pour l'éternité. Remarquons qu'Arthur, mauvais larron, cependant sauvé pour la navigation des siècles, est placé à sa gauche. Papa et Vitalie, à droite, enfin couchés ensemble. Mais Arthur, dont le cercueil est absolument intact, pas la plus petite déchirure, à peine un tout petit peu noircie par le contact de la terre. La belle croix dorée qui est dessus, on croirait qu'elle vient d'être faite. Et la plaque sur laquelle est marqué son nom, on croirait qu'elle vient d'être posée. Les ouvriers qui y travaillaient, et beaucoup de personnes, c'est toujours Madame Rimbaud qui parle, qui viennent voir ce caveau, étaient stupéfaits de voir cette conservation extraordinaire. Maintenant, le voilà bien placé. Il durera longtemps. À moins qu'il n'arrive quelque chose d'extraordinaire. Dieu est le maître. Deux fois, le mot extraordinaire. Arthur, n'est-ce pas, est extraordinaire. Il serait capable. Mais non, c'est impossible. De ressusciter. Madame Rimbaud, ne lisez rien. Mais Isabelle suit son idée au sujet des papiers d'Arthur. Qui est mort, jure-t-elle, et aucune raison de ne pas la croire, sauf à vouloir enterrer Rimbaud ailleurs. Qui est mort comme un saint. Alors, peut-être son regard à Isabelle a-t-il quand même parcouru ces lignes d'une saison en enfer, puisqu'après tout, c'est la mère qui a payé l'impression du volume. Voici ce qu'écrit Rimbaud. Elle ne finira donc point, cette goule, reine de millions d'âmes et de corps morts, et qui seront jugées. Je me revois, la peau rongée par la boue et la peste, des vers pleins les cheveux et les aisselles, et encore de plus gros vers dans le cœur, étendus parmi les inconnus sans âge, sans sentiment. J'aurais pu y mourir, l'affreuse évocation, j'exècre la misère. Ah, faites-vous incinérer, mon vieux. Votre roman sera posé sur la bibliothèque, près de vos œuvres complètes. On consultera des photocopies de vos manuscrits gardés sous verre à la température convenable. Quoi ? Il y aurait un commerce caché de petites boîtes contenant de fausses samples d'Arthur Rimbaud ? Mais quelle importance, il est loin le temps des corps entiers, des chapelles, des panthéons, des caveaux. Vitaly Cuif épouse Rimbaud, a parfois des hallucinations. Un jour, à l'église, elle voit un jeune homme à la jambe de bois qui la regarde tristement. C'est lui, c'est son fils Arthur. On va donc descendre dans les entrailles de la décomposition pour bien s'assurer qu'il est là, vissé et plombé. D'autant plus que la remontée à l'air libre, entre les mains de fossoyeurs costauds genre papa, n'a rien de désagréable. Voilà ce qu'elle écrit. Avant de sceller la pierre d'entrée qu'on appelle porte et qui a 50 cm carrés juste pour passer le cercueil, j'ai voulu le visiter encore une fois pour voir s'il ne restait rien à faire. Les ouvriers m'ont fait glisser tout doucement jusqu'au fond du caveau. Les uns me tenaient par les épaules et les autres par les pieds. Tout est bien. C'est en ce moment que j'ai fait mettre la croix et le buis. La sortie du caveau a été plus difficile car il est très profond. Mais ces hommes sont très adroits et m'en ont très bien tiré, mais avec peine. De l'utilité d'avoir des sœurs quand on écrit. Blaise Pascal, par exemple. J'aime l'église Saint-Étienne du Mont, où l'on peut lire que son corps, mort le 19 août 1662, a été inhumé près d'un pilier. Je ne crois pas que personne ait jamais remarqué que Rimbaud et Pascal ont habité le même quartier, l'un en mai 1872, l'autre en août 1654, rue Monsieur le Prince. Paris est une drôle de ville. Le dernier acte est sanglant. Quelque belle que soit la comédie en tout le reste, on jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour toujours. Ou bien, qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables. Viendront d'autres horribles travailleurs. Ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé.
Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent, pourtant d'éthique noire, quelques semblait prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant il tirait la langue, les deux poings à laine, et dans ses yeux fermés voyait des points. Une porte s'ouvrait sur le soir à la lampe. On le voyait là-haut qui râlait sur la rampe sous un golfe de jour pendant du toit. L'été surtout vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là tranquille et livrant ses narines. Quand lavé des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison en hiver s'illuminait, gisant au pied d'un mur enterré dans la marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puant la foire et tout vieillot, conversaient avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement, c'était bon, elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit. Forêt, soleil, rive, savane, il cédait de journaux illustrés où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle. Il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre, où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes qu'au soir fauve noir en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg, où les crieurs, en 3 roulements de tambour, font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums saints, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue, aux persiennes closes, aux thés bleus, âcrement prises d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. Plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroutes et pitiés, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas seul et couché sur des pièces de toile écrues.
Radio Libertaire 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste, www.radio-libertaire.org. À l'instant même, nous avons écouté les poètes de 7 ans, parus sur le double album, évidemment, Verlaine et Rimbaud, chanté par Léo Ferré en 1964 chez Barclay. Un salut tout particulier à Monsieur Patrick Muller. En tout début d'émission, nous avons écouté 2 courts extraits, vous avez entendu dans la programmation, 2 courts extraits d'un film documentaire, Arthur Rimbaud, le voleur de feu, réalisé en 1978 par Claude Brabant pour la première chaîne de télévision française. C'est un film documentaire qui est une sorte d'initiation à la vie d'Arthur Rimbaud et dont je vous recommande le visionnage. Nous allons en écouter un long extrait dans quelques minutes, un extrait durant lequel il est question du rapport entre Arthur Rimbaud et la Commune de Paris. Je vous recommande le visionnage de ce documentaire parce qu'il est très beau, premièrement, deuxièmement parce que ça vous donne effectivement une bonne indication sur la vie d'Arthur Rimbaud. Et puis il y a Léo dans ce documentaire, il intervient puisqu'il y chante 5 chansons, des poèmes d'Arthur Rimbaud et de Paul Verlaine. Ces 5 chansons sont les suivantes: Les Poètes de 7 ans, Les Corbeaux, Mes Petites Amoureuses, Je vous vois encore et Âme te souvient-il, des dernières de Paul Verlaine. Ce documentaire, il est visionnable sur le site de mes amis Chris et Sylvie, leo-ferré.eu, Léo by SCL, et je vous mettrai bien évidemment le lien sur l'article de blog relatif à l'émission du jour.
Noir de loupe, grêlé, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus, crispés à leurs fémurs, le sein sipute plaqué de hargnosité vague, comme l'effloraison lépreuse des vieux murs. Ils ont greffé dans des amours épileptiques leurs fantasques ossatures, aux grands squelettes noirs de leurs chaises, leurs pieds aux barreaux rachitiques s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou les yeux à la vitre où se fanent les neiges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud.
les sièges leur ont des bontés, culottés de brun, la paille cède aux angles de leurs reins, l'âme des vieux soleils s'allume en mailloté dans ses tresses d'épis où fermentaient les grains. Et les assis, genoux aux dents, vers pianistes, les dix doigts sous leurs sièges aux rumeurs de tambour, s'écoutent clapoter des barcaroles tristes, et leurs caboches vont dans des roulis d'amour. Ne les faites pas lever, c'est le naufrage. Ils surgissent, grondant comme des chats giflés, ouvrant lentement leurs omoplates au rage. Tous leurs pantalons bouffent à leurs reins pour souffler. Et vous les écoutez, cognant leurs têtes chauves aux murs sombres, plaquant et plaquant leurs pieds tors. Et leurs boutons d'habits sont des prunelles fauves qui vous accrochent l'œil au fond des corridors. Ils ont une main invisible qui tue. Au retour, leur regard filtre ce venin noir qui charge l'œil souffrant de la chienne battue. Et vous suez, pris dans un atroce entonnoir. Rassis les poings noyés dans des manchettes sales, ils songent à ceux-là qui les ont fait lever. Et de l'aurore au soir, des grappes d'amygdale sous leur menton chétif s'agitent à crever. Quand l'austère sommeil a baissé leur visière, ils rêvent sur leurs bras de sièges fécondés, de vrais petits amours, de chaises en lisière, par lesquelles de fiers bureaux seront bordés. Des fleurs d'encre crachant des pollens en virgule les bercent le long des calices accroupis, tels qu'au fil des glaïeuls le vol des libellules, et leurs membres s'agacent à des barbes d'épis.
Mais je pense qu'il y a aussi cette révolte de l'adolescent qui dit non. Le poète doit être révolutionnaire.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taulis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
La République proclamée, le peuple veut continuer à se battre. Mais les bourgeois craignent d'abord les rouges et tendent la main aux Prussiens. Le 28 janvier 71, l'armistice est signé avec Bismarck. Le peuple comprend la trahison.
Ce n'est pas le pilier de Bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits. C'est la canaille, eh bien j'en suis.
Du temps où il croyait tenir la situation en main, l'Empire avait armé les gardes nationaux pour résister à l'envahisseur. C'était le temps du patriotisme, comme écrivait Rimbaud à Isambard. Après l'armistice, la garde nationale apparaît comme une armée populaire, la seule sur laquelle le peuple peut compter. Elle est d'ailleurs traversée par les courants proudhoniens, blanquistes, marxistes et bakouniens, tous courants révolutionnaires.
C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans souper rime rêveur, un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits. C'est la canaille, eh bien j'en suis.
Le 25 février, Rimbaud part pour Paris. Il a 17 ans. Il trouve une population ruinée par le siège que dévore la colère et la faim. Le 1er mars, il voit les Prussiens défiler aux Champs-Élysées. Les drapeaux noirs suspendus en signe de deuil.
C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons, quand sonne sa 20e année pour entrer dans nos bataillons. Chair à canon de la bataille, toujours issu qu'on me sans cri, c'est la canaille, eh bien j'en suis.
Le peuple redoute que le gouvernement de Versailles livre maintenant les canons. Il s'unit alors aux gardes nationaux pour pousser les canons sur les hauteurs de Montmartre et sur celles de Belleville. Le 18 mars, le gouvernement envoie l'armée pour saisir les canons. Le peuple s'interpose. Thiers ordonne le repli sur Versailles. Poursuivi par la faim, Rimbaud s'est lui-même replié quelques jours plus tôt sur Charleville. Enrôlé ou non, il a passé la plus grande partie de son séjour parmi les gardes nationaux.
Mon triste cœur bave à la poupe. Mon cœur couvert de caporal. Ils y lancent des jets de soupe. Mon triste cœur bave à la poupe. Sous les colibés de la troupe qui pousse un rire général, mon triste cœur bave à la poupe. Mon cœur couvert de caporal. Tifaliques et pioupiesques, leurs colibés l'ont dépravé. Au gouvernail, on voit des fresques, tifaliques et pioupiesques. Aux flots abracadabrantesques, prenez mon cœur, qu'il soit lavé. Tifaliques et pioupiesques, leurs colibés l'ont dépravé. Quand ils auront tari leur chic, comment agir, ô cœur volé? Ce seront des hoquets bachiques quand ils auront tari leur chic. J'aurai des sursauts stomachiques, moi, si mon cœur est ravalé. Quand ils auront tari leur chic, comment agir, ô cœur volé?
Le 21 mars, le peuple de Paris décide de prendre en main son destin. La commune est proclamée.
Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux. Les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux. Car la misère en sa tenaille fait saigner leurs plans amaigris. C'est la canaille. Eh bien, j'en suis.
À Paul Demny, Charleville, 15 mai 1871. J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même. Il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant. Car il arrive à l'inconnu. Donc, le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne l'informe. Trouver une langue. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la quantité d'inconnus s'éveillant en son temps dans l'âme universelle. Il donnerait plus que la formule de sa pensée, que la notation de sa marche au progrès. Énormité devenant norme, absorbée par tous. Il serait vraiment un multiplicateur de progrès. Ces poètes seront, quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme, jusqu'ici abominable, lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu. Ces mondes d'idées différeront-ils des nôtres? Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses. Nous les prendrons. Nous les comprendrons.
On joue! Feu!
Cet avenir sera matérialiste. Vous le voyez. Toujours plein du nombre et de l'harmonie, ces poèmes seront faits pour rester. L'art éternel aurait ses fonctions, comme les poètes sont citoyens. La poésie ne rythmera plus l'action. Elle sera en avant.
On joue ! Feu ! Feu ! Feu !
Oh lâche, la voilà, dégorgée dans les gares. Le soleil essuya de ses poumons ardents les boulevards qu'un soir comblèrent les barbares. Voilà la cité sainte, assise à l'Occident. Allez, on préviendra les reflux d'incendie. Voilà les quais, voilà les boulevards, voilà les maisons sur l'azur léger qui s'irradie et qu'un soir la rougeur des bombes étoila.
On joue ! Feu !
Parce que vous fouillez le ventre de la femme, vous craignez d'elle encore une convulsion qui crie, asphyxiant votre nichée infâme sur sa poitrine en une horrible pression. Syphilitique, fou, roi, pantin, ventriloque, qu'est-ce que ça peut faire à la putain Paris, vos âmes et vos corps, vos poisons et vos loques? Elle se secouera de vous, hargneux, pourri. Et quand vous serez bas, geignant sur vos entrailles, les flancs morts, réclamant votre argent, éperdu, la rouge courtisane au sein gros de bataille, loin de votre stupeur, tordra ses poings ardus. Quand tes pieds ont dansé si fort dans les colères, Paris, quand tu reçus tant de coups de couteau, quand tu gis, retenant dans tes prunelles claires un peu de la bonté du fauve renouveau, ô cité douloureuse, ô cité quasi morte, la tête et les deux seins jetés vers l'avenir, ouvrant sur ta pâleur ces milliards de portes, cité que le passé sombre pourrait bénir, corps remagnétisé pour les énormes peines, tu rebois donc la vie effroyable. Tu sens sourdre le flux des vers livides, et sur ton clair amour, rôder les doigts glaçants. Mais ce n'est pas mauvais. Les vers livides, ne généreront pas plus ton souffle de progrès que les strix n'éteignaient l'œil des cariatides, ou des pleurs d'or astral tombaient des bleus degrés. Quoi que ce soit affreux de te revoir couverte ainsi. Quoi qu'on n'ait jamais fait d'une cité ulcère plus puant à la nature verte. Le poète te dit, splendide est ta beauté. L'orage est ta sacrée suprême poésie. L'immense remuement des forces te secourt. Ton œuvre bout, la mort gronde. Cité choisie, amasse les strideurs au cœur du clairon sourd. Le poète prendra le sanglot des infâmes. La haine des forçats, la clameur des maudits. Et ces rayons d'amour flagelleront les femmes, ces strophes bondiront. Voilà, voilà, bandit. Société, tout est rétabli. Les orgies pleurent leur ancien râle aux anciens lupanards. Et les gaz en délire, aux murailles rougies. Flambe sinistrement vers les azurs blafards.
Ferré Club sur Radio Libertaire.
Seigneur, quand froide est la prairie, quand dans les hameaux abattus, les longs angélus se sont tus sur la nature des fleuries. Faites s'abattre des grands cieux les chers corbeaux délicieux, les chers corbeaux délicieux. Armée étrange aux cris sévères, les vents froids attaquent vos nids, joue le long des fleuves jaunis, sur les routes aux vieux calvaires, sur les fossés, sur les trous. Dispersez-vous, ralliez-vous, dispersez-vous, ralliez-vous. Milliers sur les champs de France où dorment des morts d'avant-hier, tournoyés n'est-ce pas l'hiver, pour que chaque passant repense. Sois donc le crieur du devoir, ô notre funèbre oiseau noir, ô notre funèbre oiseau noir. Mais saint du ciel en haut du chêne m'a perdu dans le soir charmé, laissé les fauvettes de mai pour ceux qu'au fond du bois enchaîne, dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir, la défaite sans avenir, la défaite sans avenir.
Radio Libertaire 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste, le Ferré Club, émission spéciale à l'occasion des 170 ans d'Arthur Rimbaud. Nous venons d'écouter pour entourer cet extrait du film Arthur Rimbaud, Le Valeur de Feu, deux extraits du double album de 1964, Verlaine et Rimbaud, chanté par Léo Ferré. Tout d'abord Les Assis et ensuite Les Corbeaux. Voilà. Chanson que Léo interprète du reste dans le documentaire. Alors je vous parlais des rencontres entre Léo et Arthur Rimbaud durant la carrière discographique de Léo. La première intervient avec ce double album, donc en 1964 chez Barclay. Et Léo va retrouver plusieurs fois Arthur Rimbaud, d'abord en 1982 sur le double album Ludwig l'Imaginaire, le bateau ivre. Il va mettre en musique, bien évidemment, hein, ça tombe sous le sens, Le bateau ivre, le poème d'Arthur Rimbaud. En 1987, il va mettre une nouvelle fois un poème d'Arthur Rimbaud en musique, le poème Roman, et plus précisément, enfin renommé, intitulé et remodelé par Léo, On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, titre d'une chanson qui donnera également le titre à l'album. En 1987, donc. En 1990, sur son avant-dernier album, pour le coup, mais dernier album avec des chansons à lui dessus, pas uniquement pour preuve, hein, c'est qu'en 1990, sur l'album Les Vieux Copains, eh bien, Léo met en musique la chanson qui s'intitule La Maline. Et en 1991, la dernière rencontre discographique entre Léo et Arthur Rimbaud, eh bien, c'est Une saison en enfer, la mise en musique de ce poème d'Arthur Rimbaud, auquel Léo dédie un disque. Nous n'allons pas entendre dans sa version originale On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, mais dans une version en italien chantée par le groupe Tête de Bois. Mais juste avant, eh bien, écoutons justement ce poème intitulé La Maline que Léo met en musique sur l'album de 1990, intitulé Les Vieux Copains.
Noir de loupe, grêlée, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulés, oui, crispés à leurs fémurs.
Voilà. Ça va mieux comme ça. On repart.
La salle à manger brune, que parfumait une odeur de vernis et de fruits. À mon aise, je ramassais un plat de je ne sais quelle mets belge et je m'épatais dans mon immense chaise. En mangeant, j'écoutais l'horloge, heureuse et quoi, la cuisine s'ouvrit avec une bouffée, et la servante vint, je ne sais pas pourquoi,
fichu moitié défait, malinement coiffé. Promenant son petit doigt tremblant sur sa joue, un velours de pêche rose et blanc, en faisant de sa lèvre enfantine une moue, elle arrangeait les plats près de moi pour mes yeux. Puis comme ça, bien sûr, pour avoir un baiser tout bas, sans donc, j'ai pris une froid sur la joue.